concrètement, maintenant, si on parle prix, comment est-ce qu'on peut aider nos revendeurs à définir une offre de prix qui marche?
Alors ça, c'est le nerf de la guerre et c'est assez complexe. J'ai illustré mes propos avec cette slide sur ce qu'on appelle le flat rating, en bon français, désolé pour le terme. C'est quelque chose qui a été utilisé dans la banque et dans l'assurance et qui a été créé essentiellement dans tout ce qu'on a dans la poche pour les forfaits téléphoniques. Je m'explique. Au lieu de prendre une approche, je vends quelque chose, j'ai mes coûts de vente, j'ai mes coûts d'installation, j'ai mes coûts de maintenance, je rajoute ma marge et j'obtiens le prix final pour mon client. Donc, je fais du clé en main à chaque fois, d'accord ? Eh bien, je vais développer une offre pour un ensemble de clients et je vais faire un prix qui va être identique pour l'ensemble de mes clients. Donc, j'ai tout intérêt au départ à bien développer mon offre et à bien cerner quel est le besoin d'un certain segment de clients. Mais derrière, le prix sera un prix par utilisateur et par moi, pour tous les clients. Et il risque de se produire le phénomène qui est illustré sur la planche qui est affichée, c'est-à-dire qu'il y aura un certain nombre de clients, ceux qui sont en bleu, qui vont surdépenser par rapport à l'offre. Par contre, il va y avoir toute une frange de mes clients qui vont me permettre d'engranger du profit. Alors après, on peut se poser la question, est-ce que ceux qui surdépensent par rapport à mon offre, donc qui quelque part nous coûtent de l'argent, à moi, société de services qui propose l'usage en question. Est-ce que je dois les éliminer ou est-ce que je dois les garder? Alors là, il y a deux attitudes à avoir. Soit vous êtes sur un marché mature et saturé, c'est le cas aujourd'hui des forfaits téléphoniques, et là, vous allez recevoir un coup de fil de quelqu'un qui va vous dire « Oui, bonjour, monsieur Dubesset, vous avez un forfait à 39 € par mois aujourd'hui. Malheureusement, il ne va plus exister demain. » Donc, vous avez le choix, on passe à un forfait à 37 €. Par contre, il n'aura plus la petite fonctionnalité que vous aviez et que vous aimiez bien. Mais c'est un choix. Ou alors à 42 €. Et là, par contre, vous aurez ceci et cela en plus, entre vous et moi, quelque chose qui ne coûtera rien à la société. Et donc, on vous donne le choix. Et qu'est-ce qu'on fait, en fait? Vous faisiez partie de la zone bleue du flat rating que je montrais tout à l'heure. Et donc, vous coûtiez de l'argent à la société qui vous fournit le service, le forfait. Et donc, on vous élimine pour essayer de vous placer dans un autre forfait, en espérant, bien sûr, que vous passerez dans la zone orange. Puis la deuxième attitude à avoir, c'est sur un marché non mature, ce qu'on connaît encore dans la partie usage pour l'informatique, où là, bien, c'est pas mal d'avoir les bleus. D'accord, ils vous coûtent cher, mais ils font une grosse pub. Je donne un exemple. Vous avez vu que sur certaines offres, il y a du stockage illimité. Ce qui, a priori, est assez affolant. Illimité, on va me déborder, ou bien alors le support illimité. Ça y est, toutes mes personnes au téléphone, elles vont être complètement débordées parce que tout le monde va appeler. Mais en fait, quand vous avez un support illimité, est-ce que le plaisir des clients, c'est de planter, vulgairement, votre service client en les abreuvant d'appels? Non, vous avez quelque chose à faire. Vous allez les appeler quand vous en aurez besoin. Donc, la notion d'illimité est toute relative. Et au final, on s'aperçoit qu'il n'y aura pas autant de personnes que ça dans la zone bleue par rapport à ceux qui sont dans la zone rouge. Et par contre, les personnes qui sont dans la zone bleue, eux, vont vous faire de la pub. Reprenons l'exemple du stockage illimité. Si vous êtes un vidéaste amateur qui a besoin de beaucoup de stockage, beaucoup de place pour vos photos, beaucoup, beaucoup, beaucoup de place, vous allez utiliser le service en question. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez en parler à vos amis. Et tous vos amis vont dire... Si Christian dit ça, lui qui met beaucoup de choses sur son disque, c'est que c'est vraiment un top service. Et les amis vont s'enregistrer sur le même service. Sauf que ce seront les amis qui paieront pour Christian. Donc, bonne pub d'avoir des gens qui tirent le marché vers le haut en peut-être surutilisant le service. Mais, encore une fois, le flat rating, donc, c'est utiliser un service donné pour plein de clients différents et regarder la profitabilité de son business sur l'ensemble des clients. Pas par client. C'est la grande différence pour le revendeur.
Très bien, c'est très clair, c'est passionnant tout ça. Mais alors du coup, est-ce que tu aurais un exemple à partager avec nous d'offres qui auraient été mises en place par un revendeur type PME, TPE, qui aurait utilisé justement ce modèle de flat rating?
Alors là, j'en ai affiché un, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc vous voyez quelque chose de très simple et très lisible. Ça, c'est la clé également. D'accord, on va faire de la segmentation, mais on va être le plus limpide possible pour que le client Ils reconnaissent quelle est la valeur d'usage immédiatement. Donc on le voit ici, basé sur une solution Microsoft. Au lieu de revendre classiquement le Microsoft Office 365 avec une marge dessus, non, on vend un service, un usage. Et quel est l'usage ici ? Eh bien, c'est de pouvoir utiliser Office 365 avec un stockage illimité, avec de l'intégration transparente pour l'utilisateur, d'accord ? Avec du support illimité et avec du training, si besoin, illimité.
Ah, ce qui n'est pas limité,
donc,
c'est les usages.
Donc, on vend complètement une offre. Pour le client, il n'aura pas d'investissement a priori à faire, puisqu'il n'y a pas de coût d'intégration. Il y aura du support limité s'il en a besoin. Il aura de la maintenance illimitée s'il en a besoin. Il aura du training illimité pour ses utilisateurs s'il en a besoin. Donc, effectivement, ce n'est pas une offre faite pour une société qui a un directeur informatique, parce que qu'est-ce qu'on lui fait ? On lui pique son job au directeur informatique. Mais par contre, pour tout le segment des PME et des TPE, c'est bingo. Ils n'ont pas besoin d'avoir un directeur informatique. Tout est prévu. Et ça, avec un prix par utilisateur et par mois. Gros avantage pour la société. Il a 3 employés qui veulent l'utiliser. Il paye pour 3 personnes. Il en a 5. Il en rajoute 2. Une des 5 personnes part à la retraite. Il en enlève une. De la flexibilité de l'usage. Comme la voiture électrique que l'on peut utiliser à Paris actuellement.
Très bien, Christian. Est-ce que cette offre FR Bureau, là, elle a l'air très attractive, 39 euros par mois, par utilisateur. C'est vrai que c'est un modèle qui est quand même très disruptif par rapport à ce qu'on connaît au jour d'aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Parce qu'on a quand même du mal à s'imaginer comment un tel business model peut être rentable pour un petit partenaire.
Alors, c'est toute la question. Et on a utilisé l'expérience qu'on a eue avec les différents partenaires. On a mis l'ensemble de ces données de coûts et tous les paramètres qu'on a pu trouver sur le marché, donc ce sont des chiffres réalistes, dans un simulateur Excel que l'on a développé spécialement pour définir bien à quel prix je dois vendre ma solution que j'ai définie en amont pour mon segment de clients. Donc, comment est organisé ce simulateur ? Il y a 3 index. Le premier qui concerne les clients, le deuxième, ce qu'on appelle les paramètres, qui sont les paramètres soit de prix, soit internes, les coûts internes de la société, ici. Et le troisième, ici, la partie profit et perte, PNL en bon français, où vous allez simuler, suivant vos ventes, quelle va être la rentabilité de la société sur l'année 1, 2, 3, 4, 5. Commençons par les données clients. Tout ce qui est en gris, ce sont des choses que l'on peut modifier. Donc, le nombre d'utilisateurs du client en question, l'infrastructure qu'on va lui proposer pour stocker ses données. Est-ce que c'est de l'infrastructure privée chez le client ? Est-ce que c'est hébergé chez un hébergeur X ou Y ? Est-ce que c'est de l'Azure ? On a rentré la nature du service sous forme générique, option 1, option 2, parce qu'on ne connaît pas encore quelle est la définition du service proposé au client. Et puis après, toutes les briques d'offres Microsoft, que ce soit Office 365, PE, PME, ME, etc., etc. Et puis la durée du contrat, 24, 12 ou 24 ou 36 mois. Et donc, à partir de ces données clients, on a mis un certain nombre de deals différents, deal A, deal B, deal C, on utilise les paramètres qu'on avait rentrés directement dans l'outil. Paramètres qui sont donc ici, où il y a les coûts des différentes solutions Office 365, 365, pardon, pourquoi 75 ? C'est la nouvelle version peut-être. La partie service, l'intégration, les coûts d'administration, les coûts de maintenance, etc., etc., suivant les différentes formules, privé, hébergé ou Azure. Et puis, tous les coûts d'infrastructure s'il y a des serveurs sur site hébergés chez le client. Donc, c'est comme vous pouvez le voir, un Excel très, très, très complet. Et encore une fois, assez réaliste, puisque ce sont les paramètres du marché que nous avons utilisés et que nous avons récoltés des revendeurs avec lesquels nous avons travaillé. Et puis la dernière, eh bien, c'est la clé du succès ou du non-succès de l'offre, puisqu'on va parler de profit et de perte. On y rentre dans cette partie quand même quelques paramètres qui sont le nombre de deals attendus, prévus en année 1 à 5 pour les deals de type A, ce qu'on avait rentré initialement en type A. Même chose pour les deals de type B, même chose pour les deals de type C. Et derrière, eh bien, la worksheet vous sort directement la projection de revenus, la projection de marge, la projection de business, tout simplement, que le revendeur peut attendre avec l'offre qu'il a paramétrée dans le système.